Alors, comme on n'a pas le temps, on va faire un petit peu un résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'étaient pas là, bien évidemment. D'abord, ficher les citoyens, c'est quelque chose qui est relativement vieux. Je vous rappelle, par exemple, que l'état civil est l'une des causes qui fait que Jésus s'est retrouvé dans une mangeoire, puisque Joseph était appelé à faire son recensement en Galilée. Richelieu lui-même fichait ses opposants. À partir du 19e, on commence à faire des élections censitaires, donc il fallait justifier qu'on avait un certain revenu pour voter, et les pauvres, de toute façon, on n'a pas besoin. Et en 1914, comme on allait lancer une guerre, on a fait une grande réforme des finances de l'État, et on a créé l'impôt sur la fortune, ce qui voulait dire, bien évidemment, qu'il fallait que l'on sache, en fait, ce que gagne chacun. En 1941, à l'époque, l'Allemagne avait un petit peu écrasé la France. Comment ça, c'est le cas maintenant? Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Donc, l'exercice de l'armée a été suspendu. L'armée était déjà, à l'époque, une conscription. Et on demande à un haut fonctionnaire de préparer le retour de l'armée au cas où, on ne sait jamais. Enfin, ils font ça un petit peu dans leur coin sans prévenir le reste du gouvernement de Vichy. Cette personne s'appelle René Camille et va créer en fait un premier fichage de l'ensemble des citoyens français. Le but du jeu est de recenser tous les hommes valides qui seraient susceptibles de reconstituer une armée. Et pour cela, il va créer en fait un numéro d'identifiant unique pour tous les Français, qui va être constitué de la date de l'année de naissance, le mois de naissance, le département, un numéro à trois chiffres qui représente la commune et trois chiffres qui est le placement en fait dans le registre des naissances. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, le numéro INSEE. Mais il manquait un premier chiffre. Et comme ils se sont dit, bon, là, ça va peut-être un peu se voir, donc le gouvernement de Vichy leur a dit, « Eh, mais c'est super, mais pourquoi il n'y a pas de place mais c'est par foyer. » Non, vraiment par individu. Donc, ils ont rajouté un premier chiffre où on a en un les hommes et en deux les femmes. Donc, maintenant, vous savez que c'est non seulement sexiste, mais c'est aussi pour dire, « Allez, messieurs, partez à la bataille. » Mais est-ce que vous savez qu'en fait, ce premier chiffre avait d'autres numéros en usage? Ainsi, en 3 et en 4, on y mettait les indigènes des colonies. En 5 et en 6, les juifs des colonies qui, attention, les juifs de France étaient dans la classification 1 et 2. En 5 et en 6, c'est pour une question purement juridique, c'est parce que les juifs des colonies comptaient moins que les Français et colons, mais comptaient plus que les indigènes de nos colonies. C'est beau, la vie. Et 7 et 8 pour les étrangers. Bref, on va bien évidemment garder le numéro INSEE par la suite, qui nous sert encore actuellement, mais le ministère de l'Intérieur, en 1972, va se dire « mais c'est bien pratique quand même d'avoir toutes ces infos sur les Français. » Mais on va peut-être, grâce à la puissance du plan informatique, on va accumuler plus d'informations sur les Français. Par exemple, on va prendre non seulement leur numéro de sécurité sociale, mais on va le croiser avec les fiches de police, puisqu'on en a plein. Ah, mais on va y mettre aussi des impôts, après tout, pourquoi pas. Et, mais puisque toutes les banques sont nationalisées, elles vont nous donner tous leurs fichiers qu'ils ont sur chacun des Français là-dessus, et puis les assurances aussi derrière, et tout ça. Bref, évidemment, cela pose quand même un problème pour les développeurs qui sont derrière et qui doivent construire ce fichier fabuleusement nommé Safari. La chasse aux Français est ouverte. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand même, on faisait des ratonnades. C'est dire si c'était très mal choisi. Et donc, bien évidemment, ces développeurs ne sont pas exactement d'accord, puisque l'information sur ce fichier Safari n'est absolument pas publique. On se le fait, là aussi, dans notre petit coin tranquille de notre ministère. Et donc, des informaticiens vont écrire un courrier au journal Le Monde. Le Monde va publier en 1974, non seulement leur tribune, mais aussi une enquête sur ce fichier Safari et les implications que cela a derrière. Cela va faire un véritable tollé. Bref, cela va aller jusque devant le Parlement. Il va avoir un gros débat juridique là-dessus. Et on arrive à la loi dite Informatique et Liberté.
Donc, la loi Informatique et Liberté, donc de 78, on vous a mis le tout premier article qui indique que l'informatique doit être au service du citoyen. C'était vraiment assez puissant de commencer une loi en 78 par ces termes. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a tout plein de réflexions sur la gouvernementalité algorithmique, le pouvoir des algos. Donc, cet article reste plus que jamais d'actualité.
Mais voilà, cet article, cette loi, en fait, date de 1978, mais elle sera quand même révisée au fur et à mesure, et puis étendue par le jeu des autres lois. Si vous vous intéressez un petit peu aux amendements et à comment se constitue une loi en France, vous saurez que c'est que des commits sur GitHub, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, on trouve le code civil sur GitHub, c'est bien qu'il y ait une raison. Et d'ailleurs, elle passera carrément au niveau européen, puisque ce sera plus ou moins réunifié, parce que les autres pays ne nous ont pas attendus, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans la constitution du Portugal, il y a un article de la constitution qui précise très clairement ce que l'État n'a pas le droit de récolter comme information et de centraliser comme information sur les citoyens. Et surtout en croisement de fichiers, ce qui était très précoce. Et c'est aussi le cas pour les autres pays, bien évidemment. Corollaire de cette loi, on crée une haute autorité qui s'appelle la CNIL, qui est la Commission Informatique et Liberté, qui a donc principalement pour mission d'abord de contrôler et de censurer les fichiers de l'État, mais aussi de contrôler, c'est-à-dire que les entreprises doivent faire une déclaration auprès de la CNIL quand elles créent un fichier, et éventuellement de vérifier l'usage qui est en effet de ce fichier et de le censurer. Sous le prix d'une belle amende, ça on le verra tout à l'heure. Et cela instaure un droit au particulier à la rectification des informations, attention, des informations inexactes. Pas l'occasion pour dire que on est au chevalier de je ne sais quoi,